Passage, la nouvelle série de podcasts de l'Institut français. Un échange libre et sans modérateur entre une personnalité des mondes francophones et une personnalité néerlandaise sur des thèmes qui leur sont chers.
Bonjour tout le monde, je suis Carrie Pilto, historienne de l'art et commissaire de l'exposition « Someone is getting rich » qui a lieu actuellement au Tropenmuseum d'Amsterdam. Et j'ai le grand plaisir de discuter aujourd'hui avec le collectif CATPC. Deux membres sont ici avec moi, Cédar Tamasala et Mbuku Kimpala. Donc CATPC, c'est le Cercle d'art des travailleurs de plantation congolais et il joue un rôle très important dans l'exposition. L'exposition tourne autour du système financier mondial et son rapport avec le colonialisme. Mais elle est particulière pour une expo d'art contemporain car les œuvres d'art contemporain que j'ai choisies sont organisées selon une chronologie des inventions financières coloniales néerlandaises du 7e et 18e siècle. Donc, je veux dire concrètement, quelles sont ces inventions coloniales néerlandaises? Des premières actions de société, le marché boursier, la banque centrale, les négociations. C'est un mot néerlandais qui n'existe qu'ici, mais ce sont des obligations garanties par les retours de plantations esclavagistes aux Caraïbes. Et puis, il y a des fonds communs de placement. Toutes ces inventions financières ont permis au colonialisme de se répandre dans le monde et elles façonnent encore l'économie mondiale. Donc, les 16 artistes que j'ai choisis sont là pour nous aider à voir comment le projet colonial reste silencieusement à l'œuvre dans le secteur financier d'aujourd'hui. Mais votre participation dans l'expo est assez unique parce que parmi les 16 artistes, vous proposez un antidote, une voie pour s'en sortir. J'aimerais vous donner la parole maintenant et vous demander de faire une courte introduction à votre collectif et à ses buts.
Oh, merci pour la parole. Remède à la maladie. Déjà, qui sommes-nous? Nous sommes les cercles d'art des travailleurs des plantations congolaises, un collectif d'artistes basé à Lusanga, en République démocratique du Congo, dans la province, à 500 quelques kilomètres de Kinshasa, la capitale. Et nous avons commencé depuis 2014, notre collectif qui est composé d'hommes, de femmes, de tous les âges, des vieux, des jeunes, qui, à travers l'art, nous avons commencé à produire des sculptures en argile au départ, scannées et imprimées en chocolat et dans d'autres matières aussi, mais principalement en chocolat. Exposés un peu partout dans le monde, dans les musées. Et les revenus de notre travail artistique nous ont permis, au fil des temps, de racheter des terres. Aujourd'hui, nous en sommes à 120 hectares. Pour notre collectif, une trentaine de membres. Il y en a qui sont décédés, mais qui continuent quand même à faire partie avec leur famille de notre communauté à Lusanga. Et à travers toujours les revenus de l'art, nous avons initié ce que nous appelons l'agroforesterie. Donc, sur ces terres épuisées par la monoculture, la plantation de palmiers à huile, cette monoculture a appauvri la terre, l'a rendue aride et a abîmé la forêt, a détruit la forêt. En fait, nous, à travers l'agroforesterie, nous plantons des arbres en association avec des cultures vivrières, donc des arbres de toute espèce, des arbres pour fertiliser les sols, principalement l'acacia mangium, et d'autres arbres aussi, pour fertiliser le sol qui a été épuisé. Et nous y plantons des arbres fruitiers, à transformer ou pas, pour la communauté d'abord, et pourquoi pas à la longue, transformer, exporter. Et aussi des cultures vivrières, comme je disais, manioc, maïs, qui sont des repas de base pour lutter contre la faim, un des fléaux très frappants dans les plantations épuisées ou en ruine, comme Lusanga. Et c'est avec ça que nous avons pu créer notre projet, que nous appelons la post-plantation, donc le remède justement dont on parlait, pour nous permettre de rêver et d'espérer une vie où nous-mêmes nous sommes entre acteurs de ce changement, de cet espoir que nous, nous faisons naître et que nous voulons voir naître avant de partir, quoi. Et pour nos enfants aussi qui vont rester, les futures générations qui pourront continuer et être à l'aise chez eux, sur leur propre terre, à utiliser nos propres terres d'une manière qui nous arrange. Pas pour fournir des choses qui vont ailleurs, mais pour nous-mêmes et pour notre bien-être.
Et vous avez justement les enfants tous les deux, je crois.
J'en ai deux.
Moi, je sais.
Combien ? Cinq. Et quand vous dites, vous parlez des terres, c'était 120 hectares ?
120 hectares pour le moment, mais il y en a d'autres qui sont en négociation. Donc, on est en plein en train de racheter d'autres terres. Mais ça, on n'a pas encore cadastré, on ne peut pas les compter. Ça ne compte pas encore, mais il y a des montants qui ont déjà été versés chez les chefs des terres locaux à Lusanga.
Et est-ce qu'il y a un grand plan sur l'ensemble de la terre, ou est-ce que chaque famille a une parcelle qu'elle cultive? Par exemple, Mbuku, qu'est-ce que vous cultivez, vous?
Netinga, Tolono Gamasangu, Manioko, Kakao.
Moi, je cultive le manioc, le maïs et en même temps aussi des arbres fruitiers sur ces mêmes terres, les palmiers, des manguiers, d'autres arbres. Donc, on fait le tout ensemble, oui.
Mm-hmm. Oui. Donc, est-ce que ça participe à un seul grand plan de plantation où chacun décide pour soi-même, pour soi, pour sa famille?
Oui, il y a les deux en même temps. Il y a des portions où chacun a vraiment son champ pour lui et sa famille. Par exemple, là, dernièrement, on avait chacun un hectare de maïs. Chacun un hectare de maïs pour faire ses champs. Mm-hmm. Bon, ça dépend de la force. Il y en a qui disaient, moi, je ne saurais pas faire un hectare, c'est trop. Un demi, ça me suffit, mais c'est OK aussi pour tout le monde. Donc, c'était... Il y a une étendue aussi où... On se lance vraiment dans l'agroforesterie avec vraiment beaucoup plus de moyens, des experts, ingénieurs qu'on a, qui sont venus nous prêter main forte d'une organisation vers Kinshasa qui s'appelle GI Agro, des experts. Et donc, avec eux, on arrive à labourer avec les tracteurs et à vraiment planter des grandes étendues pour reboiser sérieusement. Là, il y a des champs, mais il y a plus beaucoup des arbres pour faire la forêt sacrée, comme on l'appelle.
Oui, donc c'est un projet décolonial, mais aussi écologique.
Écologique, exactement. Mmh. Exactement. Le président, c'est lui qui est le président de CATPC pour l'instant, M. René Ngongo, et il est le cofondateur de Greenpeace au Congo, et il est vraiment engagé dans la cause écologique depuis plusieurs années dans notre pays, et c'est vraiment un grand combattant de la nature.
C'est une des raisons pour lesquelles j'étais vraiment content que vous acceptiez.
Combattant pour la nature, pas contre la nature. Donc la
oui, j'ai bien compris. Ouais. Oui. Et c'est justement une raison, j'étais tellement content que vous acceptiez de participer dans l'expo. Si j'invitais les artistes qui parlent de finance et colonialisme, c'est aussi parce que ces mêmes financiers, ces mêmes banques, ces mêmes systèmes, et le système aujourd'hui qui finance le réchauffement climatique. Certains n'ont pas encore fait le choix moral de ne plus y investir. Et donc, tout cela est lié. C'est la même valeur, disons. On parle des mêmes valeurs dans cette exposition, qu'ils soient des valeurs de financement du passé, de l'esclavage et du colonialisme, ou des valeurs des banques aujourd'hui et leur choix moral. Dans mon esprit, les deux sont liés. Dans le fossil fuels, par exemple, c'est là. L'écologie est aussi présente dans ce projet.
Tout à fait, tout à fait.
Il y a deux œuvres de CATPC dans l'expo « Someone is getting rich ». C'est toi qui as fait les deux œuvres en collaboration. Il y a un dessin et une sculpture. Et ce dessin illustre, je l'ai choisi parce qu'il fait la carte de le processus de la post-plantation. Et l'autre s'appelle justement « White Cube Lusanga ». Est-ce que vous pouvez parler de ces deux œuvres?
Oui, je vais commencer par le dessin qui date de 2018. Sur ce dessin, j'illustre, j'aime pas beaucoup les mots, malheureusement. Mes œuvres sont tellement très illustratives. Hein. J'illustre le projet à Lusanga, le parcours de notre travail, comment il vient de Lusanga, jusqu'à comment les sculptures sont scannées. On voit une sculpture qui est dans un appareil photo et cet appareil photo envoie des données à distance vers le nord, donc vers l'Europe. C'est une cartographie, en fait, mes dessins, c'est des cartographies. On voit une grande carte d'Afrique, on voit une carte de l'Europe au nord et les scans, la sculpture part vers l'Europe et là, elle est scannée, imprimée et exposée dans un musée et les revenus, eux, ils rentrent au pays. Mais à côté, toujours dans le continent africain, on voit aussi notre scène. Donc, il y a un grand trou d'où est tiré des richesses minières, des richesses premières de l'Afrique et qui sont aussi, qui partent comme nos sculptures, qui partent, mais les sculptures partent et il y a un retour. Mais sauf sur ces richesses-là qui entrent dans le marché mondial, il y a les richesses pillées par la Chine, par exemple, le coltan qui fait les téléphones, le lithium pour les batteries, voitures électriques. Là, ce n'est pas là, mais c'est dans le même contexte aussi. Mais on voit les téléphones, les ordi portables.
Oui.
La guerre à l'est du Congo, ça fait beaucoup de morts, beaucoup de viols, des femmes. C'est vraiment très agressif. Mais c'est tout ce pillage. Il n'y a aucun retour réel vers les terres d'origine qui, justement, produisent toutes ces matières-là. Au contraire, à l'encontre de ce que nous faisons, à l'inverse, où il y a un retour et qui est réinvesti sur place pour pouvoir donner un nouveau souffle à la terre et aux gens sur place.
Mais justement, ce qui est extraordinaire dans ce dessin, c'est que vous réussissez à mettre en forme toute cette histoire, toute cette narration mondiale. Vous le rendez très clair pour le visiteur. On voit c'est un énorme caméra géant, fantastique, au centre de l'Afrique. L'envoi des images digitales 3D pour créer des sculptures. Les sculptures sont faites de graisse de palme,
oui.
De cacao,
oui.
Et de sucre.
Exact.
Mais on voit aussi l'énorme bateau, conteneur, qui part de l'Afrique vers le nord, chargé de ces produits de plantation.
Exactement.
Mais on voit aussi exactement comme tu viens de dire, d'autres bateaux qui partent avec des minéraux, des diamants ou de coltan. Et là, je viens de comprendre, en vous parlant, que tous ces ordinateurs et ces téléphones portables qu'on voit sur les... Comment on dit
les tapis roulants.
Les tapis roulants, oui. On les voit partir, les tapis roulants, à travers...
Mais les cacaos aussi.
Et le cacao.
L'huile de palme, toutes ces matières-là, pas seulement les matières premières.
Oui, vous avez trouvé une astuce, un dessin qui est fantastique. Tous ces ingrédients partent dans les tapis roulants et entrent dans les usines et ressortent et entrent dans les banques et le marché. Donc, on voit toute la chaîne.
Exactement.
Et c'est ça que je trouvais fantastique dans le dessin. Et on voit aussi la Chine. Et on voit de son côté dessin le cycle vertueux où l'argent revient à votre post-plantation et de l'autre côté, ce qui se passe d'habitude, c'est-à-dire l'art qui part vers le monde financier, et voir les puissances chinoises et autres, il n'y a aucun retour aux travailleurs de plantation.
Il n'y a aucun retour. C'est un truc qui a été bien conçu et c'est quand même dommage que ça a commencé ici. Et ici, principalement, je crois que ça a été inventé ici et où il y a tout un truc, je préfère dire truc, parce que je trouve ça vraiment très, très bizarre, cette invention à coloniser ou à mater les autres, quoi. Donc, ça a été créé pour maintenir les gens dans la pauvreté, justement, et pour assurer un confort à long terme pour des générations qui ne sont même pas encore là. Et donc, c'est une ségrégation de qui doit ou qui ne doit pas, qui a le droit ou qui n'a pas le droit. Et c'est accepté aujourd'hui. C'est accepté, c'est aujourd'hui le contrôle même de la mondialisation. Et ça se base dans les pays riches. Et les pays riches, qui ça les arrange que les pays pauvres, malheureusement, comme le Congo, restent dans cette situation-là. En même temps, ça me questionne que les gens qui n'ont rien ont su inventer l'argent et maintenir les pays qui ont tout dans l'état de pauvreté pendant qu'eux, ils ont c'est eux qui devraient être riches, c'est-à-dire qu'ils devraient être appelés pays développés. Mon pays, comme notre pays, le Congo, ne doit, c'est impossible qu'on puisse appeler Congo pays pauvre, avec tout ce qui renferme dans son sous-sol et sur son sol. C'est impossible. Mais tellement ça a été créé, ça a été créé, justement, là où on crée l'argent, c'est là où il y a la loi. Et donc, nous, on est là comme des producteurs. On envoie depuis l'époque de nos parents, nos ancêtres. Ils faisaient à Lusanga principalement, d'où on vient. On produisait que l'huile de palme. Et les gens produisaient encore et encore le palme sans savoir où ça allait. Et peut-être jusqu'aujourd'hui, les gens ne savent pas où va tout ce que nous produisons. Nous sommes là juste à produire et à envoyer. Alors, ces genres de dessins très simples et clairs qui illustrent la réalité permet aux gens de comprendre facilement que voilà, nous sommes pris dans un truc que nous devons comprendre et essayer peut-être un jour de nous défaire et de créer notre propre monde et de ne plus subir, quoi. Et petit à petit, on est en train d'avoir la formule de cet antidote dont vous parlez, mais du remède. Moi, j'aime bien dire, donc créer notre propre monde, maîtriser les réalités. Pourquoi pas créer notre propre économie? Parce que comme on est un collectif, c'est une coopérative d'abord, le CATP, c'est donc on met des parts ensemble sur les idées, sur le revenu, sur l'argent. Et à la longue, donc, pour l'instant, c'est d'abord la terre qui est notre plus grand gain, notre plus grand bénéfice. Mais à la longue, peut-être nous avons notre propre banque, nous faisons nos propres lois aussi. Donc, pourquoi pas notre propre économie, là, j'ai trois différentes monnaies. À l'ancienne, là, c'est l'Nzimbu qu'utilisaient nos ancêtres. C'est une monnaie, c'est des coquillages qu'on ramassait dans la mer, c'est naturel. Mais après, je crois que ça a commencé à Rome, je ne sais pas, hein, sûrement à Rome, où ils ont commencé à faire ça. Et ça, c'est le franc congolais, notre monnaie au Congo. Hein, donc, c'est à travers ça qu'on arrive à manipuler ou à contrôler ou à contrôler, oui, l'économie mondiale et à maintenir certains dans certaines positions pour, garantir la richesse. Et ça change de main. Hier, c'était les États-Unis, aujourd'hui, c'est la Chine. Et nous, nous sommes l'herbe que les éléphants piétinent quand ils se battent.
Oui. Cette deuxième œuvre qui est dans l'expo, qui s'appelle justement White Cube Lusanga, c'est une narration de votre système de remèdes et surtout remède pour la terre. Il s'appelle White Cube parce qu'il y a un film, il faut dire aux personnes qui écoutent, qu'il y a un film qui s'appelle White Cube.
Oui.
Et qui est fantastique.
Et notre musée qui s'appelle du même nom aussi.
Et oui, le musée qui est sur la terre de la plantation qui s'appelle White Cube. Et donc, cette sculpture reprenne à la base la forme cubique avec un toit en pente. Et voilà, vous pouvez parler un petit peu de cette sculpture.
Cette sculpture qui est, comme on disait, illustrée notre musée à Lusanga, qui lui-même, le musée, est mise en accusation parce que c'est toute une œuvre d'art, une performance où nous remettons en question les musées dans le monde. En fait, le musée, la plupart, d'après nos recherches, la plupart des musées, il y a un film aussi qui a été créé autour de ça qui s'appelle Plantation et musée, où nous interviewons des professeurs partout dans le monde pour... C'était aux États-Unis, oui, pour connaître l'histoire. Il y a eu le professeur Simo Giganti à l'université de Princeton, aux États-Unis, où il nous explique les liens, la relation qu'il y a entre les plantations et les musées. Au fait, les plantations, c'est
oui,
grâce aux
le
plantations
voir.
Que les musées existent.
Vous l'avez présenté ici à Amsterdam, je crois.
Oui, oui. Oui. Et aussi ailleurs aussi, oui. Les musées ont bénéficié. Si les musées existent, c'est la plantation, en fait, qui est la mère. La plantation a donné naissance au musée. Mais les musées sont ailleurs, ils ne sont pas la plantation. Et nous, nous avons rapatrié, nous avons su faire revenir le musée dans la plantation pour qu'il fasse un. Parce qu'au fait, le musée, ce sont des plantations autrement. Oui. Et donc, nous avons obligé le musée, les White Cube, à revenir dans la plantation. Et il est là, dans la plantation. Et il doit refaire face à son histoire. Et sur les murs de la sculpture, on raconte Lusanga depuis l'époque de Verville, parce que ça s'appelait comme ça avant. C'était du coup le nom du colon qui faisait son business, oui, les verts, oui.
Unilever, pour ceux qui connaissent le grand entreprise.
Unilever, c'est oui, la multinationale aujourd'hui, mais les verts, William, je crois. C'est lui le fondateur. Et sur les murs, les premiers murs, on voit des gens en train de grimper sur les palmiers. En dessous, il y a un feu qui les force à monter pour couper les noix de palme selon les quotas fixés par jour. Et après, il y a un gros paquet qui est récupéré, donc de l'argent, quoi, une caisse d'argent, une fortune, quoi, qui est partie. Et après, on voit sur l'autre face la ruine après l'exploitation de la plantation, la destruction des forêts qui existaient. On voit les arbres coupés, on voit la ruine, on voit un bâtiment un peu délabré. Et on voit notre début. Donc, dans cette ruine, on commence maintenant à faire l'art et on commence à labourer notre sol. On commence à faire des petites pépinières à planter. Mmh. Ça, c'est sur la deuxième façade. La troisième façade, on voit maintenant comment les plantes sont en train de grandir et commencent à donner des fleurs et des premiers fruits. Et on voit aussi sur la fenêtre de... donc voilà, on voit sur la troisième façade que ça commence à démarrer. Et sur la quatrième façade, on voit la post-plantation avec plein d'arbres différents qui portent des fruits. Et à la porte du White Cube, on voit plusieurs sculptures qui débordent même jusque sur le toit, des sculptures anciennes qui ont été bloquées dans les White Cube, dans le monde, pillées oui. depuis l'époque coloniale, qui forcent de sortir, mais qui sont encore pris dedans, qui se forcent de sortir et dedans, ça déborde. Et sur, dessus, il y a une tête, c'est la tête d'une sculpture Pende, qui a été une sculpture sacrée, qui n'était pas censée sortir du Congo, mais qui est quand même sortie, qui est à Richmond, au musée de Virginia. Sculpture que nous essayons de faire revenir au pays,
oui.
que nous avons demandé en prêt. Okay. Et donc, on espère seulement qu'on va la voir, qu'on va la voir ne fût-ce qu'en prêt. Et ce serait chouette, oui. Et...
Oui, c'est tout un autre projet
ouais.
qui est passionnant. Oui,
oui.
Et donc, beaucoup qui est là. Ouais. Ces sculptures, elles ne sont pas dans l'exposition parce qu'elles, justement, elles ne s'adressent pas directement au monde des affaires ou de l'argent, mais à quelque chose de plus essentiel encore, de l'intimité humaine, le corps, l'amour, le couple. Et elle s'est fait remarquer, tu t'es fait remarquer déjà, je crois, en 2015, par une sculpture en chocolat, qui s'appelle Autoportrait sans vêtements. Et puis un autre, j'ai vu que tu avais travaillé récemment sur une œuvre avec un très bel titre qui s'appelle Envol du couple de l'égalité. Tu pourrais nous décrire pour qu'on puisse les voir et puis dire ce que ça représente, ce que ça signifie pour toi.
Vol du couple, on a la salaki. Moi, c'est une mobile. Moi si mutu likolo mobali mutu na se pona nina sala kibongo na couple wana mobali azalaki akobela mwasi azalaki bien mwasi amonike
si faut interpréter peut-être que
oui
petit à petit. Ah oui, dans la sculpture que j'ai faite l'envol, on voit l'envol d'un couple.
Mm-hmm.
C'est une histoire qui raconte une histoire qui représente un couple où le mari est malade, c'est ça?
Moi c'est Monique mobali nanga za obela moya otika mobali nanga ezate moi c'est azwa ki charge ya mobali na ye.
Oui, l'homme était malade pendant longtemps et la femme n'a pas voulu baisser les bras. Elle a voulu prendre la relève de leur famille, de leur couple, pour mm-hmm. qu'elle le sauve.
Azwaki famille, azwaki charge, moi, y a mobile, y a pour la nine, pour biso tout ça là en groupe.
Elle a pris en charge le foyer, y compris son mari. C'est comme nous travaillons en groupe, nous.
Biso tout ça là en groupe, tout l'ingaraté, ko kabana, il fallait.
Oui, nous travaillons en groupe avec nos différences et nos forces. Nous aimons tous mettre ensemble nos forces pour que justement le groupe puisse monter ensemble, prendre la
force. Quand on a une salle, on a zola qui ça basi nani force basi la force.
Pourquoi je fais ça? C'est aussi une façon pour moi de donner la force à mes sœurs africaines pour leur montrer que les femmes aussi, on a une force à donner, on a quelque chose à contribuer aussi.
pokuna na biso ozomona mobali azosala mwasi azosala te mwasi mosala na ye zamba mobali azokende biro azoyoka kokuta basi na ndako mwasi na ndako yango wana nasalaki bongo ifale biso basi tozala na force tozala na force mpe tokoma kosala neti mibali.
Pourquoi je fais ça? Parce que chez nous là-bas, tu verras, les femmes, les hommes vont au travail, ils vont au bureau, ils ont un travail, ils sont... et les femmes, elles sont plus, elles restent à la maison, elles se disent que c'est l'homme qui doit tout faire, et parfois, elles se contentent juste de rester à la maison, de faire des travaux de ménage, ou peut-être d'aller au champ, ça se limite là. Et moi, je voudrais que ça aille plus loin, je voudrais que les femmes sachent qu'on peut aussi faire les mêmes travaux comme les hommes parce qu'on en est capable. Et
exemple ndenge to yekoto nazomona basi ba misusu ba policier ba misusu bazo sala na ba bureau ba misusu bazo kumba mituka bazo kumba ba moto mais biso kuna makamo wana ezate yango wana nazolinga tozala na force biso basi tozala na force tozala pe na ba bureau tozala pe na tozala ba policier tozwa misala na force nango.
Quand on est arrivé ici, la première chose qui m'a frappé, j'ai vu que ici les femmes elles font tous les boulots. J'ai vu des femmes policières, j'ai vu des femmes dans les bureaux, j'ai vu des femmes dans presque tous les travaux. Et ça m'a vraiment beaucoup donné beaucoup de force. Et c'est dans cette idée là que je me disais que oui, chez nous aussi, les femmes peuvent croire qu'on peut faire ça aussi. On peut contribuer dans la construction de notre communauté, de notre pays, en faisant tous ces travaux. Et ça demande la conscience et de s'élever, de se donner pour y arriver et ne pas rester dans cette position de contemplation.
Tout ça, c'est la relation, la communication, la collaboration, pour tout ça, la force.
On a besoin des relations, on a besoin de communication, on a besoin de... pour avoir la force, pour prendre la force.
C'est une œuvre étonnante. Le collectif, ce n'est pas seulement une œuvre décoloniale, écologique, mais aussi féministe.
Exactement. Je crois, oui.
Je crois. Ce serait la prochaine expo, alors, pour moi. Je suis motivée. Et il y a une sculpture dont on n'a pas parlé, mais qui me tenait vraiment à cœur à présenter, mais on n'a pas pu pour les raisons de l'argent et de temps. Et je veux juste qu'on parle parce qu'elle s'appelle « La bête et l'argent ».
Avant que vous ne passiez, j'aimerais juste dire que la sculpture autoportrait, oui, mais elle-même, elle appelle le titre vraiment « Ekekwa Mutaka Lobenga Aonde
Ni Titre ». Nu et fier.
Nu et fier.
Nu et fier.
C'est ça l'autoportrait, oui, dénudé.
Et ça se voit.
Oui, nu et fier. Donc ça va dans la même direction aussi. Exactement. Je crois. Esprit féministe, elle assume, elle veut contaminer, elle veut donner la force à ses sœurs congolaises, africaines, pour qu'elles soient pas complexées, quoi. Qu'elles puissent affronter la réalité, qu'elles puissent se battre et ne pas se laisser faire.
Oui. Elle est fantastique. Elle est assise, nue. Genoux écartés même, pour qu'on voit sa féminité.
Oui.
Fière, décontractée.
Oui.
Bien, là.
Nue et fière.
Nue et fière. Mais si on revient à l'argent...
Oui.
La bête et l'argent m'a tellement impressionnée parce qu'elle parle de ce système néocolonial ou colonial qui est toujours en place par les banques et par rapport à la richesse de l'Afrique. Donc, est-ce que vous pouvez beaucoup au toi juste décrire cette sculpture que j'ai tellement voulu pour qu'on n'a pas eu.
Mboukou, tu veux en parler?
C'est toi.
Mboukou préfère que j'en parle. Ouais. La bête et l'argent, c'est un étang de poissons avec une grosse bête qui massacre les poissons.
C'est une sorte de grand rat gondin.
Lui-même, l'auteur qui s'appelle Kapa Samuyaka, qui est un collègue à nous. Un grand frère parce qu'il est plus âgé et il dit les poissons dans l'étang c'est l'argent et la bête ce sont les institutions financières qui peuvent entrer dans l'étang et massacrer tous les poissons comme ils veulent. En fait, c'est eux qui font la loi sur l'argent, sur les institutions
qui se servent
comme ils veulent. Donc voilà, c'est eux qui font la loi.
ça me fait et, toujours
et il
sourire.
Dit, il dit quelque chose, il dit, les institutions te donnent l'aide, et ils t'endettent, mais ils te disent que c'est une aide. En fait, ils te disent que c'est une aide, mais ils t'endettent. Et quand ils t'endettent, avant de t'endetter, avant de te donner la fameuse dette, ils te disent qu'ils te donnent plein de conditions. L'une des conditions, c'est de laisser ta porte grandement ouverte, porte et fenêtre, parce que lui, quand il veut, il peut venir à tout moment pour entrer et sortir quand il veut. Ça, c'est aussi, ce sont les paroles de Kapa Samuyaka que j'essaie d'utiliser pour expliquer. Donc, voilà.
Justement, la dette est un des thèmes principaux de l'exposition. Il y a même une œuvre que vous avez vue d'un autre artiste haïtienne qui
exact.
S'appelle La double dette.
On a beaucoup aimé.
On n'a pas le temps d'en parler.
Oh oui.
Mais vous avez visité aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, la dette est un des thèmes de l'exposition. Mais mm-hmm. surtout la dette quand il s'agit de la dette souveraine des pays en travers mm-hmm. les banques mm-hmm. internationales, les banques mondiales, etc. Mm-hmm. est aussi des sujets vraiment de le bête et l'argent.
C'est inclus, oui.
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 Mais il y avait un titre provisoire qui nous a fait beaucoup sourire au musée,
oui.
qui était Le rat banquier.
Le rat banquier. Oui, c'était un titre provisoire parce que les œuvres, on veut être sûr avant de donner un titre. On donne parfois 3-4 titres et l'auteur, à la fin, il choisit. Oui. Et lui, il nous a sorti l'argent et la bête à la dernière minute pendant que ça faisait plusieurs mois qu'on l'appelait rat banquier. Il dit c'est l'argent et la bête. Mais rat banquier, c'est clair, le rat banquier, on sait que le rat, c'est un rongeur. Et donc, c'est aussi, c'est intrus dans la maison des gens. Il entre dans la cuisine, il touche aux provisions, il mange comme il veut. Et voilà, le rat banquier, oui.
J'aimerais juste vous demander quelles sont vos prochaines aventures après l'exposition « Someone is getting rich » parce que je crois que vous avez un grand projet en attente.
Oui, on est à Venise, on sera à la Biennale de Venise l'année prochaine, en 2024. Là, on est en pleine préparation de la Biennale et donc on est vraiment dans le centre du coffre-fort en train de voir toutes les idées, comment ce sera. Et donc, comme c'est le coffre-fort, je n'ai pas les codes pour l'ouvrir et pour vous les montrer maintenant.
Okay. Donc, ça restera. Ce que vous allez présenter reste secret. Mais...
On le fera à Venise l'année prochaine.
Oui. Oui. Donc, si vous avez compris, le CATPC représentera les Pays-Bas en
exactement.
2024
oui.
à la Biennale de Venise.
On ne voit pas ça comme ça. On voit qu'on a été chanceux d'être dans ce pavillon ou dans un autre pavillon à Venise. L'important, c'est de communiquer un message. Et le pavillon hollandais a bien voulu nous faire confiance et nous donner ce pavillon. Et on aurait aimé que ce soit le pavillon belge parce que là, ce serait vraiment chez nous.
Mm-hmm.
Oui. Ce serait chez nous.
Mais c'est juste à côté, le pavillon belge.
C'est
les voisins.
C'est juste à côté, on les regarde là. Oui.
Oui.
Ouais.
Peut-être eux aussi, ils auraient bien aimé. Mais vous innovez aussi parce que vous n'êtes pas seulement dans le pavillon néerlandais et voisin du pavillon belge, mais le biennale aura lieu aussi à Lusanga, si j'ai bien compris. Votre intervention.
Je crois que c'est...
Double.
C'est une partie du coffre-fort, même si vous ouvrez un peu.
C'était annoncé.
Oui, c'était annoncé. Je suis d'accord, bien sûr. On va donner un petit aperçu. Oui, on n'est pas là pour fournir encore. On veut aussi qu'il y ait des retombées à Lusanga. Donc, on ne peut pas être au sommet de l'art à Venise. Et que Lusanga, où il y a notre musée, que rien ne se passe. Quoi. Donc, c'est comme ça qu'on a préféré jumeler notre musée à Lusanga avec Venise. Donc, ce sera double activité en même moment, Lusanga et Venise, temps réel.
Merci.